Podcast.com. Essaye ça.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Le crachoir numéro 99, toujours en vie malgré le coronavirus qui s'attaque à tout le monde. J'ai vérifié avec mes collaborateurs, ils respirent toujours et ils sont bien nantis encore de papier cul, car vous savez que lors de toute crise, surtout lors d'une épidémie, faut pas manquer de papier de toilette. Salut Martin!
Salut les gars, ça va bien? Écoutez, moi, mon stock de survie est fait, des batteries, papier de toilette, des bouteilles d'eau, des Joe Louis, je suis prêt.
Tu fermes tes fenêtres quand tu passes dans Italie, puis tu vas pas à la Chine, tu restes dans un coin safe de Montréal.
Là. Ben, ils parlent de farmer ça, là. Ils parlent de farmer la petite Italie puis la Chine.
Ouais, ils vont mettre le petit pont à terre au-dessus du canal, là, puis le canal, ils vont le remplir de béton, puis ils vont monter ça comme un mur, puis là, on va être en sécurité.
Voilà.
Puis, quel est le climat, dans le fond, du Témiscamingue, Jay?
La panique totale. Il y a un cas à Sudbury, une ville, c'est quoi, de 100 000 habitants, le territoire du Grand Sudbury. Alors, Sudbury, juste pour vous situer, c'est à 3 heures de route de chez nous. La panique est installée. Mes parents ont déménagé chez nous. Je sais pas comment on va faire pour passer au travers.
C'est pas dur. Achète du papier de toilette, de l'eau, des batteries, puis calfeutre tes fenêtres avec du gros tape gris qui aille pas, pantoute d'échange d'air. Parce que non, mais ça a l'air de rien, là, mais un petit 3 heures de route pour un virus, c'est vite parcouru, surtout en hiver. tout le monde panique avec ça. Mais je pense que là, ça vaut pas la peine de. Je pense qu'il y a des problèmes le plus importants que cela. Et d'ailleurs, un des problèmes qu'on a eu, c'était de choisir le sujet pour 99. Dans une autre vie, autrefois, le choix eût été simple. On aurait pris Wayne Gretzky pour le numéro 99. Puis gars, je vais le faire pour la forme. Là. 99. Wayne Gretzky, un très bon joueur de hockey. C'est réglé. On a un thème un peu plus, je pense, un peu plus intéressant, puis plus dans la qui fit mieux dans la nouvelle mouture du crachoir avec nos petites références historiques, tant qu'à avoir Jay avec nous autres. Tu vas nous parler de Columbine, la tuerie qu'on a surnommée la première quille, hein, en référence au documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine.
Un excellent documentaire. On en parlait avant d'enregistrer. Frank, tu l'as vu toi aussi, Bowling for Columbine?
Ça fait longtemps, puis j'ai revu des extraits récemment. Comme quand il s'ouvre un compte dans une banque qui donne à toute personne qui s'ouvre tel type de compte un gun gratis! Puis ils font le background check, c'est un questionnaire sur une 8,5 par 11, genre, t'es-tu fou? Tu vas-tu nous tuer, nous autres? Non? Good. Tiens, on donne le gun. Ils sont tout fiers, tu sais. Ils sont une banque américaine et détaillant reconnu d'armes à feu, puis ils ont 500 guns dans la banque.
Puis je pense dans ce documentaire-là, c'est au Kmart, hein. Je pense qu'ils vont voir pour les guns parce que l'événement de Columbine, ça s'est passé le 20 avril 99, en 1999. C'est deux adolescents de Columbine qui se trouvent au Colorado. Les noms des adolescents, ils s'appelaient Dylan Klebold et puis Eric Harris. Klebold avait 17 ans, puis Harris avait 18. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? C'est que ces deux jeunes-là, pourquoi qu'on a appelé ça Bowling for Columbine ou bien pour notre épisode de la première quille? C'est que les jeunes s'exerçaient sur des quilles qui étaient vissées sur un morceau de bois proche de chez eux pour s'exercer à tirer, dans le fond. Fait que dans le fond, ils tiraient des quilles. Fait que c'est pour ça le Bowling for Columbine. Parce que moi, quand j'étais jeune, je me demandais ce documentaire-là, c'est quoi un documentaire de bowling? Puis même le début, tu sais, ça a aucun rapport avec les tueries. C'est juste du monde, tu sais, qui joue aux quilles, etc. Mais c'est vraiment pour ça, à cause que les jeunes se sont exercés sur des quilles avant d'aller tirer dans leur école. Fait que juste une histoire vraiment courte, là, parce que oui, on va parler de Columbine, mais surtout du nombre de tueries et puis de morts qu'il y a aux États-Unis depuis 10 ans. Vous allez voir, c'est des chiffres que j'ai vérifiés et revérifiés parce que c'est astronomique, ça n'a aucun bon sens. Pour Columbine, les deux jeunes, ces deux adolescents, quand même assez refermés sur eux-mêmes, de ce que je me souviens du documentaire, on a mis ça sur le dos de la musique heavy metal et surtout sur le dos de Marilyn Manson. Est-ce que tu t'en souviens, Frank?
Oui, c'était complètement ridicule. On a fait c'est la même incroyable. Chose avec Kim Virgil puis Megadeth. Je sais plus quelle tuerie qu'on avait associée à Grand Theft Auto, un jeu vidéo. C'est parce que plutôt que d'admettre la vérité, là, que les États-Unis sont une nation de gun nuts, là, qu'ils vénèrent les armes autant que Jésus, là. C'est eux autres, c'est, dans l'ordre, là, c'est l'argent, les armes, puis Jésus. C'est ça, les valeurs américaines. Puis plutôt que mettre la vérité en face, puis dire, peut-être que notre problème, c'est dans notre mentalité, c'est dans notre culture. Peut-être qu'on est une culture violente, guerrière. Peut-être qu'on aime un peu trop les armes. Plutôt que de se dire la vérité, on essaie de trouver un coupable facile pour dire, bon, ben, c'était le type de musique interdisait cette musique-là, puis c'est réglé. On cherche une solution facile, puis on aime ça pointer un coupable facile à identifier, puis ça rassure le public. Martin?
Ben, pour faire référence à quelque chose que Jay a dit tantôt. Je me souviens très bien dans le documentaire, tu parlais de Marilyn Manson, puis qu'il y avait eu, il y aurait, semble-t-il, ce qui est complètement ridicule, mais aurait eu une influence là-dessus. Michael Moore lui demande, si tu avais eu la chance de les rencontrer, ces deux jeunes-là, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Et sa réponse, c'est une affaire que j'oublierai jamais.
Pas génial.
Il a dit, je leur aurais rien dit pantoute, je les aurais écoutés.
Il dit, ouais, je leur aurais écouté ce que personne n'a l'air d'avoir fait.
C'est ça. Moi, ça, là, je me souviens très bien quand j'ai écouté ce documentaire-là. Puis c'est sûr que là, on veut pas juste parler du documentaire, mais tu sais, de l'événement en soi, mais écoute, il s'est associé, là. Écoute, je suis marqué à vie par cette réplique-là. Puis je dis réplique, là, évidemment, c'était pas scripté, là. Puis la deuxième affaire dont je me souviens, puis je sais pas si tu vas arriver là, c'est parce que il y avait déjà eu des tueries du genre avant ça aux États-Unis. Mais bon, les médias n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. La différence de celle-là, c'est qu'on l'a vu. Il y avait des caméras dans l'école. Et moi, je me souviens d'avoir eu le sang glacé de voir ce que j'ai vu dans le documentaire. Vraiment, là, c'était comme la première fois qu'on le voyait. Tu sais, il y a eu Polytechnique ici, là. Il y avait pas de caméra dans l'école pendant que ça se déroulait. Ou s'il y en avait, c'est jamais devenu public. Mon opinion à moi par rapport à tout ça, c'est que il y en a eu d'autres avant. Mais c'était la première fois qu'on la voyait.
C'est la première fois que c'est devenu un peu un spectacle. Puis souvent, il y a des meurtriers dont le but est de devenir célèbre, de passer à l'histoire. C'est des gens souvent qui ont une existence soit insignifiante ou tu sais qui se sentent pas importants pour personne. Là, ils vont me remarquer. Puis c'est vrai. Puis aujourd'hui, ben le crime c'est encore plus vrai parce que c'est filmé. Puis en plus, là, Columbine c'est des caméras de sécurité, mais aujourd'hui là, tout le monde est un caméraman là, avec un cellulaire.
Mm-hmm. Exact.
Mais là, Jay, tu avais des chiffres, toi, là-dessus, là, parce que moi, là, j'ai écouté bien des podcasts où il en parle, Joe Rogan, des trucs comme ça. Puis, tu sais, là, une des problématiques qui revient toujours, c'est que le nombre exact, tu sais, là-dedans, tu sais, il y a les décès causés par armes à feu, puis il y a les décès causés par des tueries avec des fous avec des armes à feu. Tu sais, le monde causé par une arme à feu, ça, là.
Ben justement, je vais arriver avec ça, mais en fin de chronique, ça te dérange pas, parce que c'est incroyable, OK? Fait que juste pour placer en perspective qu'est-ce qui se passe, oui, OK, c'est une tuerie dans une école secondaire de Columbine. Les deux jeunes, le matin, se rendent là. Ben, c'est genre vers la fin de l'après-midi, vers l'heure du dîner, eux autres avaient l'idée de se rendre là. T'sais, où est-ce que tout le monde serait rassemblé en même temps puis que t'sais, ils seraient sûrs d'en tuer le plus possible. Fait que ils se rendent là pour l'heure du dîner vers 11h45, puis là ça commence et puis ça a duré à peu près 15-20 minutes. Les jeunes avaient amené des armes semi-automatiques puis des bombes artisanales qu'ils avaient placées dans des poubelles de la cafétéria.
Ouais, d'avance.
D'avance, exactement. Et puis, ça l'a causé en tout 12 morts. Attends un petit peu, 12... Oui, 12 morts. Dans le fond, 11 élèves puis un prof qui ont été tués. Fait que il y a eu plusieurs morts, mais c'est pas la pire. C'est ça, on se souvient que Columbine, ben, comme t'as vraiment bien expliqué, Martin, c'est la première qu'on a vue. Puis je l'ai réalisé quand tu l'as dit. C'est vrai, c'est la première... qu'on a vu sur des caméras de surveillance. Mais vous rappelez-vous celle de 2012 à Sandy Hook?
Ben oui.
Ben oui, absolument.
Ben oui,
dans une école primaire.
Puis il y a même des théories de conspiration, des espèces d'imbéciles qui disent que c'est fake, qu'il y a
du
monde qui sont supposés être morts, puis qui sont ailleurs. Puis ça a fait le tour pas mal.
Oui. Ben Alex Jones, écoute, ça a été. Pas dans quel épisode, je pense que l'avant-dernier que j'en parlais, justement, j'ai revu Alex Jones à Joe Rogan, puis il est revenu sur les déclarations qu'il avait faites à l'effet que, tu sais, bon, il a dégelé, là, puis il se rend bien compte que, tu sais, c'était peu probable que ça soit stagé. Mais non, Sandy Hook, c'est sûr. Puis en décompte de victimes, corrige-moi, Jay, mais il y en a plus, là.
Attends un petit peu, j'ai ça dans mes notes en quelque part, je vais revenir tantôt. Attends un petit peu, oui, Sandy Hook. Sandy Hook, il y a eu 49 morts.
Hey, écoute, là.
Ça, c'est du meurtre de masse,
c'est
ça,
débile,
là. Ouais. Non, ça, ouais, ça a été vraiment incroyable pour ça. Puis, comme je vous ai dit, c'est dans une école primaire. Fait que pour revenir à Columbine, fait qu'il y a eu 12 morts. Et puis, vers midi et 8, à peu près midi et 10, ben, les deux jeunes se sont tirés pour pas se faire arrêter. Fait que eux autres, c'était vraiment d'aller faire une tuerie, puis c'était prévu qu'elle se tue par après.
C'est un attentat suicide.
Pardon?
Un attentat suicide.
Exactement. Eux autres, il y avait rien à perdre. Là. C'était deux jeunes isolés. C'était deux chums ensemble qui vivaient un peu les mêmes. Tu sais, deux jeunes, on va dire nerds, là, justement, qui n'ont pas vraiment.
Il y en a un qui voulait aller à l'université, puis il y en a un qui voulait rentrer dans l'armée, puis il avait fait déjà des vidéos avec des fausses armes, tu sais, puis il jouait au gangster, puis il tripait fort sur les guns. Il y en a un qui voulait rentrer dans l'armée, ça devait être la raison principale, mais il faisait déjà des vidéos avant avec des fausses armes, puis toutes sortes de c'était des gun nuts, là, il tripait ses armes.
Un peu comme Kim Virgil au collège.
Dawson.
Ouais. À Dawson College. Mais là, on parle d'avant Facebook, avant, tu sais, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux. Fait qu'eux autres, ils ont mis ça sur Internet, justement, comme tu as dit, des photos d'eux autres avec des guns. Puis, ça n'a pas été pris au sérieux. Puis, encore aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui vont se poser avec leur gun. Puis, on prend pas ça au sérieux aux États-Unis parce que ça fait tellement partie, comme on a dit au dernier épisode ou le deux épisodes, c'est tellement ancré dans eux autres, comme tu dis, la religion des armes, que jamais qu'ils vont s'en rendre compte.
Oh ouais, c'est ça. Ils ne se regarderont jamais dans le miroir parce qu'ils aiment leur gun. Fait qu'ils vont trouver n'importe quelle autre raison pour justifier ça. Puis la raison profonde, c'est pas nécessairement les armes comme telles. Tu sais, OK, guns don't kill people, people kill people, blablabla. Tu sais, le fait qu'elles soient accessibles, c'est une grosse partie du problème, je pense, mais la majeure partie du problème, c'est dans la culture. C'est une culture de guerrière, puis qui tripe sur les armes, qui tripe sur la violence. Tu regardes leurs films, tu regardes leurs héros, c'est quoi? Tu regardes comment ils se valorisent. C'est souvent lié avec la puissance, les armes, ces choses-là. Puis crime, ils ont grandi en écoutant des G.I. Joe, puis tu sais, les G.I. Joe, là, je m'excuse, là, mais c'est de la propagande militaire pour donner le goût aux enfants d'entrer dans l'armée. Là, ça met une image héroïque puis merveilleuse de l'armée, comme c'est donc bien hot, il n'y a rien de plus cool qu'un soldat américain. c'est dans leur culture, c'est America, fuck yeah! Tu sais, c'est quand on a mis ton nom au dernier. Là. Oui, Martin?
Tu disais la culture des armes à feu, les jeux vidéo, le fait de... C'est parce que l'autre affaire...
Le
là,
culte des armes à feu.
Les lois, c'est très bien dit. Les founding fathers des États-Unis se sont tellement donné un bel amendement dans la Constitution que 200 ans plus tard ou 260 ans plus tard, ils peuvent réutiliser. C'est tellement parfait.
Non, mais ils peuvent l'interpréter.
À l'effet que... Ben, c'est ça, le droit de porter une arme, c'est pas juste là, l'histoire de protéger ta cour, ta famille, ton troupeau. Là. C'est de te protéger contre tous les ennemis, qu'ils soient de l'extérieur ou de l'intérieur. Là, c'est tellement facile maintenant de ressortir ça 200, 300 ans plus tard puis de dire, oh ouais, mais là, si jamais il en arrive un despote tyrannique qui décide de faire des États-Unis une monarchie puis prendre le compte, ben voyons donc.
Ah ben, Martin, imagine que ça arrive là. Que le gouvernement devient tyrannique aux États-Unis, puis que les pro-guns, qui d'ailleurs interprètent comme ils veulent, parce que c'est pas the right to bear guns, c'est right to bear arms. Puis c'est les armes qui existaient à l'époque où ça a été créé, c'était un mousquet, là. Un mousquet qu'il y a à peu près 5 minutes entre chaque tir, parce qu'il faut que tu remettes la poudre, faut que tu la tasses, faut que tu mettes les plombs, faut que... Tu sais, c'est compliqué de tirer du mousquet. T'as 20 minutes pour y penser, là. À qui tu vas tirer, où c'est que tu vas tirer. Tu tirais pas pour rien. Puis, tu sais, c'était une époque où, justement, les gens avaient des mousquets, puis un gouvernement tyrannique aurait eu des mousquets. Sauf qu'aujourd'hui, même avec le AR-15, qui est semi-automatique, là, qui n'est pas une arme militaire, qui n'est pas une arme d'assaut, là, arrêtez de dire ça, ceux qui disent ça, c'est pas vrai. C'est pas une arme d'assaut, puis elle n'est pas automatique. Mais c'est peut-être le gun le plus performant que tu peux légalement, facilement acheter aux États-Unis. Mais admettons que le gouvernement devient tyrannique, puis que les Américains, ils ont toute une AR-15, ils ont tout ça, ils en ont toute une. C'est parce que le gouvernement, il y a des drones, des tanks, des avions, des hélicoptères qui peuvent t'exploser la tête de toi puis toute ta gang à des kilomètres sans même que t'es voix ou que t'es entendre. Fait que cet amendement-là ne fait aucun sens, c'est indéfendable. Fait que ceux qui se servent de l'amendement puis en disant, avec l'argument du gouvernement tyrannique, c'est n'importe quoi. Ça repose sur aucune logique, là. Tant qu'à ça, regarde, dites-les, là. J'aime ça me crosser avec mon arme à feu, puis tu m'empêcheras pas. Mais Grim, je vais dire, au moins, Grim, au moins t'es sincère. Au moins, t'es assez lucide pour voir la réalité en face. Tu te comptes pas d'histoire. Ça me fait déjà moins peur que t'aies un gun dans les mains plutôt que celui. Il y en a un, on a vu ça sur Facebook, là. Il fait une vidéo, puis il explique à ses enfants, là. Là, mes enfants, je pourrais pas être avec vous autres pour Noël. Parce que votre père, puis c'est un accent redneck, là.
Ouais.
Votre père, il a fait un serment de protéger la Constitution des États-Unis puis la liberté. Puis là, il s'en va manifester avec des gun nuts contre le contrôle des armes à feu ou je sais plus quoi. Mais ces gens-là, là, c'est comme les espèces de bénévoles là, qui se tiennent aux frontières là, avec des guns là, puis qui attendent de voir un Mexicain passer. Quel genre de citoyen normal fait ça, tu sais? Ben, aux États-Unis, beaucoup, ici, aucun. Parce qu'on n'a pas la même culture, puis on ne vénère pas la violence puis les armes comme eux le font. Ben, évidemment, après l'argent. Là.
Puis, pour revenir à Columbine, qu'est-ce qui s'est passé par après? En 2001, les familles des victimes, des 12 familles, dans le fond, des victimes, ils ont poursuivi les gun suppliers. Dans le fond, c'est les fournisseurs d'armes à feu, dans le fond, aux États-Unis pour 2,5 millions. Ouais, les manufacturiers pour 2,5 millions en dommages et intérêts, justement, pour les pertes humaines qui ont été encourues. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond. Un résumé de Columbine, regardez, c'est vraiment la tuerie dans une école qui nous a le plus marqué. Regardez, ça fait 21 ans, puis on en parle encore. Puis des mass shootings, là, justement, des fusillades comme ça dans les foules, ben ça arrive à tous les jours aux États-Unis, mais c'est celui-là qu'on se souvient le plus. Mais moi, un que je me souviens le plus, c'est celui de Las Vegas, le 2 ans.
Le show de country.
Ben oui, c'était un show de country, puis le monde pensait que c'était du monde qui avait allumé des pétards à mèche, mais finalement, c'était du monde qui se faisait tirer à partir de la strip, là, tu sais, là, fait que... Ça, c'est incroyable, ce mass shooting-là.
Tantôt, tu faisais allusion aux chiffres totaux de toutes les tueries qu'il y a eu dans les dernières années aux États-Unis. T'as-tu ça pas loin?
Oui, je m'en vais là. En 2019, il y a eu 434 mass shootings aux États-Unis.
Hein? Mais non, t'as pas 434 victimes, là? Mass shooting, des meurtres de masse?
Oui, c'est 1,3 à peu près par jour.
Mais voyons donc.
Mais on n'en parle pas aux nouvelles parce que souvent, ça fait une victime, des fois zéro, ça fait des blessés. Mais en 2019, sur 434, en français, c'est quoi, mass shooting? Fusillade?
Un meurtre de masse.
Meurtre de masse. Ouais, c'est ça, on va dire fusillade. Il y a eu 1643 personnes qui ont été blessées et puis 517 qui sont mortes pour un total de 2160 victimes par arme à feu aux États-Unis, juste pour les mass shootings. Mais là, tantôt, j'arrive avec les chiffres. Il n'y a pas juste les mass shootings, il y a les accidents avec des armes à feu. T'sais, des fois, ton enfant de 3 ans le prend et te tire dans la tête. Là.
Oui, parce que ceux qui gardent ça pour la protection, parce que si tu as une arme puis c'est vraiment pour te protéger, toi et ta famille, elle peut pas être dans un armoire barré avec les balles à part d'une autre armoire, parce que s'il y a des méchants qui rentrent pendant la nuit, t'as pas le temps d'aller. Attends un peu, là, aller débarrer ça. Je trouve mes clés, mon esti, tu vois, t'es pas rentré dans la bonne maison, là, tabarnak. Puis là, il commence à débarrer ça. Ça n'a pas d'allure. Fait que si vraiment tu veux protéger ta famille, il faut que ton gun, tu l'aies à portée de toi puis qu'il soit accès accessible. Fait que s'il est accessible pour toi, il l'est pour tes enfants.
Exactement. Fait qu'il y a plusieurs accidents qui arrivent là-dessus. J'arrive avec mes chiffres. Okay, tenez-vous bien, là, depuis 2012, alors environ 10 ans, là, je veux dire, c'est depuis l'attentat de Sandy Hook. Le 14 décembre 2012, il y a eu 2000 mass shootings aux États-Unis en 8-9 ans.
Ben voyons!
OK, 2000. OK, j'ai vérifié et revérifié. Ça vient du Washington Post, OK, ces chiffres-là. Là, fait que c'est pour Wikipédia, là. Alors, 2000 mass shootings pour un total de 2300 personnes tuées depuis 8 ans et puis 8400 qui ont été victimes. Alors,
Il n'y a plus personne qui s'envoie chier comme dans le temps. C'est pas assez.
Ouais, c'est ça.
Colin, non, mais il me semble que moi quand j'ai hein? du monde, là, les envoyer chier, des fois, c'est pas payé. Ça, essayez donc ça. Là, que, tu sais, que le gun soit le la dernière alternative, là, tu sais, on dirait que là, c'est comme le plan A, là, c'est pas genre en dernier recours, là, quand ils sont à bout, là, ils se mettent à. On dirait que là, c'est une solution qui est là, qui est disponible, pourquoi pas la prendre?
Exactement.
L'option est comme trop facile.
Jay, tu disais, parce que tantôt, je t'ai un peu coupé, je volais ton thunder parce que tu voulais en parler plus tard, mais. Je me souviens d'une émission, je me souviens pas laquelle, que j'écoutais là, toujours autour de la question du contrôle des armes à feu, tout ça aux États-Unis. Puis, il y a beaucoup de polémistes ou des gens qui sont pro-contrôle des armes à feu, qui justement utilisaient un peu les chiffres, genre les suicides qui sont faits avec des armes à feu, ils ajoutaient ça là-dedans. Tu sais, là, ils ajoutaient à peu près tout.
Pour grossir.
Oui, ben oui, c'est ça, c'était pour donner des chiffres. On s'entend là. 2000 mass shootings, ça n'a pas d'allure, puis le nombre de victimes non plus, ça n'a pas d'allure. Il n'y a pas de chiffre acceptable, là. On s'entend. Là?
Mais j'arrive avec les chiffres, avec les meurtres et les suicides
aussi. C'est ça, parfait. C'est ça qui me. Ben, je voulais faire la corrélation un peu entre les deux. Là.
Oui, inquiétez-vous pas, parce que les chiffres sur les meurtres et puis les suicides s'en viennent. Ça, c'est juste les mass shootings. Là.
Okay, okay.
Il y a eu 2300 personnes qui sont mortes dans un mass shooting depuis 8 ans aux États-Unis. OK. Okay. L'événement de Las Vegas, c'était le 17 octobre 2017. Dans le fond, le gars, justement, qui était dans un hôtel, dans une tour de la Strip à Las Vegas, a tué 58 personnes. Et puis, il y a eu des douzaines de blessés. Des centaines de blessés, excusez-moi. Et puis, le 16 juin, en juin 2016, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait eu une tuerie dans un bar gay en Floride.
Oui, oui.
Vous en souvenez-vous?
Oui, oui.
Il y en a un autre aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, le gars qui était rentré d'un cinéma pendant Batman.
Oui, oui, je m'en souviens, mais ça, c'était en 2008. C'est en 2008, okay, quand le film avait sorti. Là. C'est toujours de même, en 2008 ou en 2012, je m'en souviens
plus. Batman Begins, je ne sais
pas. Moi, je pense que c'est le deuxième ou le troisième, peu importe. En tout cas, oui, lui... Il était rentré dans le cinéma, puis le monde pensait que ça faisait partie de la promo du film. Fait que le gars était en avant, tu sais, avant qu'il commence à tirer, là, puis il applaudissait parce que, hey, il y a un gars d'exemple en Joker, tu sais, ça fait partie de la présentation du film. Il a sorti son gun, puis il a tiré sur le monde. Fait que, tu sais, vous voyez un peu la folie, tu sais, le monde.
C'est le vrai Joker?
Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait tellement partie d'eux autres, là. Ça fait tellement partie d'eux autres qu'ils paniquent même pas en voyant quelqu'un s'approcher devant l'écran au cinéma avec un gun. Hey, ça fait partie du show, quoi.
Ben oui, c'est quand je dis que c'est dans leur culture. Mais tu sais, avant que tu me sortes les chiffres épouvantables de tantôt, là, j'étais même plus capable d'être horrifié quand il y avait des nouvelles de tuerie de masse. Ceux qui suivent mon Facebook le savent. Je vais même plus me donner la peine de m'insurger puis tout ça. Quand il y a une tuerie de masse aux États-Unis, je fais que partager la nouvelle puis j'écris USA, USA, USA. Puis ça veut dire exactement ce que ça veut dire.
Ouais.
Je pense que c'est le meilleur commentaire que tu peux faire. C'est bravo, America.
Exactement. Et puis en 2016, selon le Center of Disease Control and Prevention aux États-Unis, il y a 39 000 personnes qui sont mortes ou ont été blessées par rapport aux armes à feu aux États-Unis. OK?
Il y a plus d'armes à feu en circulation aux États-Unis qu'il y a d'Américains. Je sais pas si tu le sais.
Exactement. Et puis là, je parle pas dans les 8 dernières années. En 2016, OK, j'ai pas les stats pour le reste, là, mais en 2016, il y a 39 000 personnes qui ont été tuées ou blessées à cause d'une arme à feu aux États-Unis. Et puis, si on prend tous ces chiffres-là, OK, ça fait 2% de tous ces cas-là qui sont reliés à des mass shootings. OK? Et puis, pour terminer, tantôt on parlait, tu sais, les meurtres, tout ça, c'est 14 000 personnes qui sont mortes d'un meurtre aux États-Unis. Ça, c'est pas un mass shooting, là, c'est un à un, OK?
Ouais.
Alors, 14 000 personnes en 2016 sont mortes, et puis il y a eu 23 000 décès en 2016 de suicide par arme à feu en une année. Alors, on peut dire que c'est de même à toutes les années, quasiment là, alentour de...
Fait ça n'a juste aucun sens.
C'est une plaie sociale. C'est une plaie. Les armes aux États-Unis, c'est en train de... T'sais, ils s'entretuent, quoi. Quand tu dis le 14 000...
C'est la société qu'ils ont bâti, là. C'est ça qu'ils ont bâti. C'est ça qu'ils voulaient. Vous aimez ça, endoctriner les flots, les faire triper sur l'armée, les faire triper ses guns, les faire triper sur le firepower, l'argent, la puissance, puis tout. OK, bravo. OK, vous êtes puissant aujourd'hui, mais vous êtes tout à moitié fou aussi. Martin?
Moi, tu sais-tu qu'est-ce que je retiens des chiffres que tu as donnés, Jay? Au-delà du fait que, tu sais, on en a parlé plusieurs fois quand même dans le crachoir, là, tu sais, que c'est presque plus une nouvelle. C'est désolant à dire, mais c'est presque plus une nouvelle.
C'est comme la météo, là.
C'est ça. Sauf que ce que je retiens, par exemple, j'ai pas fait tout le calcul, là, mais tu sais, vite fait, là, tu semblais dire dans des mass shootings à peu près sur 8 ans, 2000 personnes. Sur 8 ans.
Oui, 8 ans, c'est ça.
En 2016, tu disais 39 000 personnes. Bon, tu sais, mettons, je fais un gros chiffron, là, tu sais. Ben, en fait, non. Tu dis que c'est 2% des gens que ça a été causé par des armes à feu, tu sais, des 2% des décès.
Oui, 2% des affaires d'armes à feu, c'est dans des mass shootings. Le reste, c'est soit des meurtres ou bien des suicides.
Parfait. Fait que donc, moi, ce que je comprends, c'est que ça donne un autre argument aux gens qui parlent du maintien du droit de bear arms, là, puis tout ça. Parce que dans le fond, ils disent, si tu enlèves les guns pour prévenir les mass shootings, c'est juste 2% des décès. Tu sais, si tu te recules de la forêt, là, puis tu regardes ça froidement comme un
indicateur
public, là, ben, les autres, ils vont dire, si tu enlèves les armes à feu, tu vas régler 2% du problème réel. Puis, tu as juste à parler avec les gens qui ont ces problèmes. Ben oui, c'est que, mettons là, que tu dis que c'est 2% des décès causés par armes à feu qui ont été faits dans des mass shootings.
Mm-hmm.
Si tu enlèves le droit aux gens d'avoir le port d'armes ou d'acquérir des armes de façon légale, tu sais qu'il y a un contrôle plus serré qui se fait aux États-Unis, tu vas régler 2% du problème des décès causés par
les armes. C'est pour ça que je pense pas que que ça change grand chose de bannir les armes. Je pense qu'il faut quand même les rendre moins accessibles. Je me rappelle plus, je pense que c'est un documentaire ou un reportage journalistique qui a fait ça. Ils ont envoyé et filmé un petit gars de, je pense, 13-14 ans, qui est allé s'acheter une arme à feu dans un... Parce que là, tu sais, le background check, en passant, est bidon, trois quarts du temps, là, c'est une feuille 8,5 par an, genre, t'es-tu fou? Vas-tu me tuer moi? Non, tiens, voilà ton gun. Mais dans les bazars, là, tu sais, les marchés aux puces, là, ils vendent des guns de main à main. Tiens, mon homme, moi, 200$, tiens, pars avec le gun. Puis le petit gars de 12-13 ans, il est parti du pawn shop ou je sais pas quoi, avec le gun dans les mains, là. C'est facile comme ça, là. Mais le problème, c'est pas que les guns existent ou qu'il y en ait tant que ça. S'il y en a tant que ça, c'est parce que le monde trippe un peu trop là-dessus. Puis c'est un problème culturel, puis ça va pas se régler avec une loi comme ça, ça c'est certain. Il y a rien à faire. C'est ça leur culture, puis ça va prendre peut-être quelques générations qui vont se réveiller, mais au moins en faisant une loi un peu plus restrictive pour les armes à feu, ça démontre au moins la volonté d'une société de vouloir, de dire au public, les armes, c'est inacceptable, la violence, c'est inacceptable, mais tant que c'est permis, le gouvernement cautionne, pour ne pas dire encourage, l'acquisition d'armes à feu. Puis c'est bizarre parce que ceux qui sont les plus ardents défenseurs des armes à feu, c'est souvent dans des rednecks, du monde qui trippe plus sa religion, puis tout ça, puis tu sais, c'est étrange, c'est vraiment étrange. Parce que la religion, c'est supposé être un message de paix, puis la non-violence. Les Américains se sont créés leur Jésus qui aime les guns, puis qui aime l'argent. Parce que c'est pas vrai que c'est des chrétiens comme le reste de la planète. C'est une autre sorte de chrétien, puis c'est une autre sorte de Jésus. C'est un Jésus blanc qui aime les guns, puis l'argent. Puis ils mettent tous ensemble, puis c'est le même genre de monde qui trippe là-dessus. C'est là que souvent tu vas avoir le plus de manifestations, ou le plus de membres de la NRA. Tu sais, maintenant, la NRA, la NRA a été créée au lendemain parce qu'avant, il y avait le KKK, tu sais, le Ku Klux Klan. Puis quand le gouvernement a déclaré cette organisation-là illégale, la NRA est apparue quasiment le lendemain. Tu sais, c'est cette catégorie de personnes-là, là, des Charlton Heston, From My Cold Dead Hands. Mais justement, il est mort, esti. On peut-tu comme passer à autre chose puis changer de mentalité? C'est une question qui va se régler à coup de génération puis qui se réglera pas là parce qu'il y a rien qui va empêcher les gens de se procurer des armes à feu puis surtout pas d'en faire usage parce que c'est dans leur culture, c'est ce pays-là. Nous autres, on mange de la poutine, nous autres, ils tirent du gun, tu sais.
Mais regarde, Frank, puis Jay, dans le fond, là, le bilan final que moi je fais, c'est que si tu considères que par rapport aux mass shootings qui sont très tragiques, c'est 2% des décès qui sont causés par des armes à feu, ben puis si tu t'attaquais à aider les 39 000 personnes qui se sont enlevées la vie avec une arme à feu, puis que tu réussissais à en convaincre 10% de ne pas passer à l'acte puis qu'ils s'en sortent, ben tu aurais déjà sauvé plus de vies que dans les mass shootings.
J'ai de la misère avec la stats de suicide parce que je pense que le suicide n'est pas motivé par l'arme à feu. L'arme à feu, c'est juste le moyen le plus facile de mourir sans souffrir, mais sinon, il se pendrait. Là. On ne fait pas un registre de cordes. Là.
Non, regarde, là, Frank, c'est pas ça que je dis. Je fais juste dire que si ton objectif réel, c'est de faire que moins de gens périssent par une arme à feu, point final, enlève pas les femmes, les armes à feu, aide les gens. Là. C'est juste ça que je dis. Là.
Moi, ça serait autoriser juste les armes de chasse.
C'est ça. Jim Cornette, un commentateur de lutte qui fait souvent de la politique, tu sais, il disait, regarde, tu veux le régler le problème, parfait, t'enlèves aucun droit au, c'est-tu le deuxième amendement, ça, c'est ça?
Deuxième
amendement. Change rien au deuxième amendement, mets juste des armes de 6 coups en circulation, c'est tout.
Oh non, c'est ça, puis pas des armes de poing qui se cachent à la ceinture, tu sais, des 410, des 22, des 12,
des longs loadés, puis que tu sais, ça tire des
208, là, tu sais, aller tuer des chevreuils, là, tu sais, tu es déterminé à faire un mass shooting là, avec un gun à culasse là, que ça va être plus long en tout cas, là. C'est pas un mousquet là, mais tu sais, ça mais va être plus long qu'avec un AR-15.
Les gun free qui vont répondre, oh oui, mais tu sais, si le gouvernement devient méchant, je pourrais pas les arrêter avec ma 22. Ouais, c'est ça. Fait que ça revient à.
Si t'as pas un tank ou un drone, là, tu peux rien faire contre le gouvernement.
Si c'est ton heure, ça va être ton heure quand même, t'as un AR-15 chez vous. Mais c'est ça, tu sais, c'est que il y a comme un glissement du débat, mon opinion, là, un glissement du débat. Tu sais, c'est que il y a les armes d'un côté, puis il y a les gens qui périssent à cause d'armes. Dans le cas du suicide, je suis d'accord avec toi, Frank. Quelqu'un qui veut vraiment en finir, ben s'il n'y a pas de gun, il va trouver des pelules, il va trouver d'autres choses. Je parle de ça froidement, là, c'est bien plate, mais c'est ça pareil. Mais si tu parles d'un accident qui arrive chez vous, tu sais, whatever, ben ça non plus, tu peux avoir un 6 coups, une 22, puis un enfant de 3 ans peut avoir un accident. C'est correct. Sauf que, tu sais, c'est ça, là, c'est que chaque groupe impliqué dans ce débat-là, tu sais, la couverte de son bord pour préserver ce que lui veut préserver. Tu sais, c'est ça qui arrive. Là. Parce qu'au final, on s'entend-tu qu'il y aurait moins de monde qui meurt si les guns étaient moins durs à avoir? C'est sûr que ça le serait. Sauf que là, il est trop tard. Là. Tu pourras jamais contrôler ça. Comme tu l'as dit, puis c'est su et connu depuis longtemps qu'il y a plus de guns que de population aux States. Comment tu veux régler ça? Ramener nouveaux guns?
Premièrement, il faut commencer par identifier le problème. Puis je pense qu'on pourrait peut-être conclure là-dessus. Si vous êtes d'accord avec moi, sinon on va débattre. Oui. Mais moi, je pense que le problème, c'est pas les armes, c'est la violence. Mm-hmm. Puis la violence est imprégnée dans cette culture-là, qui se valorise avec son armée, qui a pour héros des militaires qui se fascinent pour les tueurs. Tu sais, quand tu regardes des films, c'est tout le temps lié à la violence. Tu sais, je suis pas en train de dire là, arrêtez des films violents, c'est la faute des films violents. C'est pas ça que je veux dire. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la violence peut être divertissante là, dans des œuvres d'art puis des divertissements, mais là, c'est malsain, c'est obsessionnel, c'est devenu un culte. Les armes, mais beaucoup la violence, la puissance, le culte de la puissance aux États-Unis. Puis aussi, c'est cette espèce d'admiration puis de paranoïa en même temps pour l'armée. Parce que, tu sais, dans l'hymne national, tu sais, les Américains, ils aiment beaucoup cette phrase-là. « Home of the brave ». la maison du brave. Mais quand on regarde les États-Unis, là, puis la grosseur de leur armée, qui est plus grosse que celle des 13 pays réunis qui suivent et qui sont tous alliés des États-Unis, est-ce que c'est le comportement de quelqu'un de brave? C'est plus le comportement de quelqu'un de peureux et paranoïaque. Puis ça, cette réflexion-là, elle vient pas de moi, elle vient de Bill Maher. Mais Colin, j'ai souscrit, puis pas à peu près. Je pense que regarde juste les émissions pour enfants là, au Québec, comparées à ça aux États-Unis. Nos parents, ils ont eu Fanfreluche, Larry Boulding, des clowns, puis des affaires comme ça. Nous autres, on a eu Passe-partout, puis les jeunes aujourd'hui, ben ils ont un autre Passe-partout. Mais aux États-Unis, c'est Transformers, puis c'est G.I. Joe, puis c'est toutes des patentes de guerre, de guns, puis G.I. Joe, c'est sûrement le pire, là, parce que c'est carrément de la propagande militaire là qui fait paraître l'armée comme une vie extraordinaire et palpitante d'action, puis tu combats pour la liberté, pas pour le pétrole, pour la liberté, pas pour l'impérialisme américain. Non, 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 tu défends la liberté, puis les valeurs, puis Jésus, puis... Tu sais, c'est... Puis Colin, je trouve que... donner ça comme message à des enfants, puis que ça ait le succès que ça a eu. D'ailleurs, nous autres aussi, on l'a eu, les G.I. Joe, là. Mais ça n'a pas été écrit ici, hein, les G.I. Joe. C'est très, très, très américain, hein, les poupées, tout ça. Puis quand c'est pas les G.I. Joe, c'est autre chose. Il y en a eu d'autres, là, masques. Puis tu sais, c'est tout le temps du monde avec des armes qui tue d'autres mondes. Fait que c'est pas mal là. Puis d'ailleurs, je vous ai préparé pour mettre fin à ce segment. Une toune qui va vous ramener en enfance. Mais avant, Jay a de quoi dire.
Oui, juste pour vous dire, OK, dans les 10 dernières années, il y a une semaine où est-ce qu'il n'y a pas eu de match shooting, et puis c'est la semaine du 5 janvier 2014 aux États-Unis. Ouais, okay, ouais. Je laisse aller là-dessus, Frank, excuse-moi de t'avoir coupé dans ton flow.
C'est la semaine que le Super Bowl est en même temps que les G.I. Joe. Fait que voici, tiens, le thème de l'émission G.I. Joe qui nous a tous brainwashed un petit peu. Puis... portez attention, oui, aux paroles de la toune, mais en plein milieu de la toune, il y a un petit bout instrumental où il y a un narrateur qui parle. Puis si vous ignorez l'anglais, ben faites-vous le traduire par quelqu'un. Sinon, vous allez voir que c'est assez clair. T'sais, on peut pas dire que c'est subliminal. On peut dire que c'est liminal. Pour ne pas dire super liminal, voici... G.I. Joe, le thème de l'émission des années 80. L'original, en tout cas, je pense bien. C'est le crachoir numéro 99.
Yo, Joe!
We'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there.
G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there.
It's G.I. Joe against Cobra the enemy, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air.
G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there.
G.I. Joe is the code name for America's daring, highly trained special mission force. Its purpose? To defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world.
He never gives up. He'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare.
G.I. Joe. G.I. Joe.
Les casseurs et les dénonces. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent.
Le crachoir numéro 99. Tu sais, le post qu'on a vu sur Facebook, Martin, avec que d'ailleurs que Tommy, moi aussi je l'ai partagé, où on voit le nombre de victimes là, du coronavirus monter là, en temps réel avec les prières épeurantes des madames en arrière. Là.
Mm-hmm. Catholicity, en fait, la page.
Oui. Catholicity. Je me disais, en le regardant tantôt, après notre conversation avec Jay, je me dis, crime, si on en faisait un pour les victimes d'armes à feu aux États-Unis, tu sais, graphique qui monte en temps réel, là.
Ah, mais ça serait différent, le monde trouverait ça cool.
Ah ouais, hein, c'est-tu qu'on est hot?
Ben ouais, les gros rednecks qui boivent de la Old Milwaukee, là, qui regardent ça en camisole là, en shootant des ratons laveurs pour manger ça pour souper. Là.
Ah ouais, ben eux autres, ils regarderaient ça et ils disaient « Pfff, check ça, il y a plus de blessés qu'un mort, gang d'amateurs. »
Ils mettraient ça à 60 pouces là, puis on s'amuse avec ça.
Mais je sais pas quelle musique ou quelle prière qu'on ferait jouer. Sûrement la même prière. Là,
tu parles de coronavirus. J'ai un bon chum, s'appelle Daniel Moisan, qui a posté un mème en fait hier que j'écoute. C'est rare que je riposte des mèmes, OK, parce que je ne suis pas du style à mettre une photo de mon spaghetti non plus. Là. J'essaie d'utiliser Facebook pour... Facebook et non Messenger. Là. Messenger, je communique avec plein de monde avec ça, mais Facebook, tu sais, je call me un entrepreneur, mais tu sais, j'essaie de ne pas me voir mes babelles avec ça.
Ben oui.
Mais c'est rare, je fais des posts de même. Mais là, c'est deux photos. On le partagera sur le crachoir. C'est deux photos, OK? La photo du haut, c'est Jazz Club Without Coronavirus. Puis la photo d'en dessous, c'est « Jazz Club with Coronavirus ». C'est la même photo, puis le club, il est vide.
Mais tu sais, c'est quoi la différence entre un guitariste jazz puis un guitariste rock?
Dis-moi donc ça.
Le guitariste rock joue 4 accords devant 4000 personnes, puis le guitariste jazz joue 4000 accords devant 4 personnes.
Oh, c'est chien.
C'est chien, mais c'est vrai. Ils sont trop bons, les jazzmen. On comprend pas ce que vous faites. On comprend pas. OK, on comprend pas. T'sais, quand vous faites des solos, là, puis ça fait genre. Attention, solo de contrebasse.
Puis là, attends.
Puis là, il y a des silences. Puis là, il y a des silences, il y a toutes sortes d'affaires. Puis il y a une parodie. Dans Les Simpsons, c'est tellement drôle. Lisa va dans un. un club jazz, tu sais. Puis, c'est un musicien qui joue avec. Qui fait beaucoup de silence. Puis, il y en a un qui dit hey, c'est bien plate. Lisa a dit il faut que tu écoutes les notes qu'elle ne joue pas. Puis, tu dis ben, je peux faire ça à la maison. Puis, ça que son cœur.
Mais, c'est drôle, hein, tu dis ça parce que tu me fais penser. J'ai vécu une aventure. Je compte ça deux anecdotes rapides qui ont rapport. Une avec le jazz, puis l'autre avec le coronavirus. Non, je ne peux pas dire quel lien il y a. C'est la musique, le lien. Je m'en vais à un moment donné chez Steve Music. Tu sais, c'était un endroit mythique. C'est rendu sur Sainte-Catherine, mais à l'époque, c'était, je me trompe pas, sur Saint-Antoine, dans le bas de la ville.
Il y en a un à Ottawa sur Rideau aussi.
Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'il y en a un dans le West Island aussi à Montréal. Je pense qu'il y en a trois, quatre. Attendez, oui, peu importe. Moi, je vois celui, là, le Mothership là, à Montréal. Là. Puis je suis là, puis je tapone, je suis tout le temps là. Puis les vendeurs, tu sais, ils sont rendus qu'ils me connaissent. Puis tu sais, je suis toujours en train de regarder des guitares. Puis là, un moment donné, j'entends quelqu'un jammer de la bass, de la slap bass, là. Tu sais, je l'entends jouer, puis ça, c'est écœurant, puis tout. Puis je me reviens de bord, puis c'est Alain Caron de UZ.
OK, Colin.
Bon, en fait, tu sais, je suis tombé sur un des meilleurs au monde qui était chez lui cette journée-là, OK? Je sais pas combien d'années plus tard, mais un nombre significatif d'années, là, genre 15 ans, OK? J'apprends qu'Alain Caron, il vient dans une salle à Sainte-Thérèse, j'ai peut-être sa Rive-Nord dans ce temps-là, puis j'ai il faut que j'aille voir ça. Je me rappelle l'affaire de Steve Music, mais tu sais, c'était un gros show de jazz, là. Hey, c'est exactement ça, là. Tu sais, c'était comme, OK, il a fait de la slap un peu, il a sorti une couple de tunes du Zeb, tu sais, tout ça, là, Spider, entre autres, dont je me souviens, qui a bien de la bass dedans. Mais c'était exactement ça. Tu sais, l'espèce de feeling de, ah, ouais. Quand est-ce que tu vas slapper, man?
Non, écoute les notes que je joue pas.
Ouais, c'est ça. Puis je te compte une autre anecdote. Écoute, tu sais, je me promène un peu partout au Québec depuis longtemps avec un band qui s'appelle Les Excentriques. Puis figure-toi que je jouais le week-end dernier, j'étais en show à Mont-Laurier. Et Mont-Laurier a un cas répertorié de coronavirus.
T'es en péril?
Non, c'est pas ça, Frank. Nous autres, on a été chanceux, je te dirais, là, puis je veux pas, tu sais, il y a eu moins de monde que la vente des billets. Tu sais, il y a eu moins de gens qui se sont présentés que le nombre de billets qui a été vendu.
Ah ouais.
Donc, au moins, le diffuseur, le promoteur, tu sais, au moins, ben, écoute, puis se renflouer un petit peu avec ça. Parce que quand la vente a commencé, les histoires de fous de coronavirus, t'as pas encore commencé.
OK, c'est lié à ça, là.
Ouais. Fait qu'il y a eu peut-être une centaine de personnes, tu sais, il y aurait dû en avoir peut-être entre 200-300. Puis, il y a une autre salle, il y avait un plus petit show qui s'avère que le diffuseur de notre show connaissait le diffuseur de l'autre show. Il y avait 120 billets vendus, il y a eu 4 personnes.
Hey!
Puis écoute, là, il n'y avait pas de verglas, il n'y avait pas de grosse game de hockey, il n'y avait rien, là. Tu sais, c'est pas...
C'est de la panique, le monde panique.
Ouais, c'est capoté, là. C'est capoté, vraiment, là.
Le monde panique quand il arrive des choses qu'ils ne comprennent pas, un peu comme Lars Ulrich.
Ben, c'est ça, tu m'emmènes. Quel beau segue, écoute, fantastique.
Merci.
C'est fantastique. Écoute, 1999, Frank, ça correspond au 20e, en fait, en 2019, ça va faire 21 ans, en fait, là. La fondation de Napster, qui n'a pas que de notre génération n'a pas connu Napster qui avait un ordinateur. Écoute, puis ce qu'on attribue à Napster, ben on va en parler là, évidemment, je vais vous en parler un peu, mais c'est clair que Napster est à l'origine de l'industrie, des moult changements qui ont eu lieu dans l'industrie de la musique. On peut les attribuer à deux gars.
On pourrait dire la chute de l'industrie de la musique.
Ouais, ou en tout cas la migration, la transformation, peu importe là.
Ouais, ben disons, on va dire la chute des revenus de vente d'albums.
Ouais. Ouais. Ou le transfert des entrées d'argent reliées à la musique a commencé là.
Ouais.
Parce que t'as deux gars, Sean Fanning et Sean, j'avais même pas fait le lien. C'est Sean Fanning et Sean Parker qui sont devenus des petits bodés à l'âge de 14 et 15 ans à peu près sur Internet, where else. Puis qui ont commencé à échanger sur différentes choses. Sean Fanning avait déjà jeté les bases d'une plateforme, d'une technologie qui permettait de faire ce qu'on appelle du peer-to-peer, ou pour les puristes qui nous demandent d'arrêter de dire podcast et de dire balado, le point à point.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est ça, du peer-to-peer. Ouais. En fait, c'est quoi? Ben, c'est
d'usager à usager, on s'échange des fichiers par le biais d'une plateforme, comme il y a eu LimeWire, il y a eu Casa avec toi.
Ouais, mais le premier là, tu sais, qu'on peut dire qu'il y a eu du succès, c'est vraiment Napster. Pourquoi?
Ah, mais LimeWire, tout ça, c'est venu après. Tu sais, ils sont allés chercher le monde qui.
On explique simplement, c'est que lui a créé une plateforme centrale à partir de laquelle, en te connectant à cette plateforme-là, tu pouvais avoir accès aux fichiers d'autres gens. Ça, il n'y a rien là. Ça, on n'a rien inventé. Ce qu'il a inventé, lui, c'est la capacité de la dite plateforme centrale de faire travailler toutes les autres points qui se connectaient à cette plateforme-là pour avoir accès aux fichiers de ces gens-là. Fait que ce que ça faisait que tout ce que les gens rendaient disponible pour être téléchargé sur Napster, quand tu t'y connectais, tu faisais une recherche, tu pouvais aller voir. Entre Napster et les gens, il y avait un autre truc qui s'appelait Music Exchange ou quelque chose comme ça, puis petit à petit, on a pu éliminer ça, puis ça partait directement de ton disque dur. Puis là, ben, tu pouvais aller chercher whatever, la toune, la vidéo, c'est plus tard, là, mais tu sais, le contenu, en fait, le fichier, tu pouvais aller le chercher.
Oui, c'était toune par toune. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, tu sais, ouais, là, les torrents, tu sais, c'est un coup de « Ah, j'ai découvert un band, c'est pas pire, je vais aller chercher la discographie au complet. »
Ouais, ben les torrents, il y a une différence. Les torrents, c'est que si tu as 1000 personnes qui ont le fichier que tu veux, tu vas pouvoir aller en chercher 0.08% de chaque, puis recréer le fichier à partir de tous les petits morceaux que tu es allé chercher.
Ça, ouais, c'est les données sont comme fragmentées, puis tu vas les chercher.
Voilà, ça, c'est du torrent. Par contre, dans le cas de Napster, ben c'était vraiment, tu partais de l'ordinateur A, puis tu allais pogner une toune sur l'ordinateur B. C'est aussi simple que ça. Puis s'il y en avait plus qu'un qui avait la toune que tu voulais, il y avait l'ordinateur C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P qui l'avait aussi. Ben là, ben tu pouvais, si ça chiait entre ta connexion puis un, ben tu pouvais aller à l'autre, à l'autre. En gros, là, c'est vraiment très basique, là. Fait que là, ben oui, je veux parler de Napster, mais je veux surtout parler de ce qui a mis fin, si on veut, à Napster. Pourquoi? Parce que ça s'est passé ni plus ni moins entre Metallica et Napster. En fait, ouais. Première mise en demeure pour bris de copyright, là, si on veut, ou en tout cas de matériel créatif, parce qu'il y a plusieurs lois américaines là, qui régissent ça. La première compagnie qui a intenté des poursuites contre Napster, c'est A&M Records. Okay? Mais le premier band, par exemple, qui a intenté une poursuite, c'est vraiment Metallica. Pour la petite histoire, c'est pas compliqué. C'est que Lars Ulrich, et qui l'a dit ensuite à ses chums de Metallica, ils ont découvert que avant la sortie du film Mission Impossible 2, la tune I Disappear était disponible pour télécharger. En fait, ils l'ont entendu à la radio et ça n'avait pas été releasé encore.
Ah, c'est ça, ça a pissé du studio, ça s'est ramassé sur Internet. Il y a une radio qui a mis la main là-dessus et dit en avant-première.
Et voilà.
Avant tout le monde, voici.
Ils ont remonté à la filière pour découvrir que ça, c'était à travers Napster que la station de radio avait mis la main là-dessus.
Sûrement en qualité dégueulasse. C'est ça qui devait être le pire.
Ben, écoute, tu sais, à cette époque-là, là, on parle de 2000. Le tripeux, le Metallica Head, là, il s'en calissait de la qualité audio. Là.
Ben, tu l'avais gratis, t'étais content de l'entendre avant tout le monde, là, mais les fichiers faisaient au travers de la musique, c'était dégueulasse, sauf que, tu sais, était gratis.
Ben, voilà. Fait que là, ce que Metallica a fait, c'est qu'ils ont engagé une compagnie qui s'appelait NetPD, qui est une firme de consultants. Qui fait en fait qui monitore des trucs sur Internet. Tu sais, fait que si tu voulais savoir qu'est-ce qui se passait comme trafic sur Napster, ben c'était la firme employée.
Est-ce que PD c'est pas genre Police Department, genre Net Police Department?
C'est la police du net. Okay. C'est ça que ça veut dire PD. Ce qu'ils ont fait dans leurs premières instances de validation s'il y avait du trafic pour le matériel de Metallica. Ils ont trouvé qu'il y avait 335 435 usagers de Napster qui en avaient. OK? C'est rien que ça. Ça a généré, donc c'était en violation des droits des droits d'auteur. Donc, ça l'a fait. Ce qu'ils ont fait, puis là, c'est un peu de Lars, là, pour ceux qui connaissent un peu le mythe autour de Lars Ulrich, là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait shipper un document de 60 000 pages au bureau de Napster, qui était la liste de monde qui avait du stock de Metallica disponible pour téléchargement, en leur demandant là, de cesser, là, en les mettant en demeure d'arrêter tout de suite ça, de retirer la possibilité de télécharger du Metallica et de bannir ceux qui en avaient. Donc, les 335 000, tu peux plus aller sur... Fait qu'avec son adresse IP, dans ce temps-là, des VPN, ça courait moins les rues. Puis pire que ça, Frank, il y avait des universités qui permettaient à leurs étudiants d'utiliser Napster sur le réseau de l'université. Fait que là, ben écoute, là, ça ouvrait Valve pas à peu près. Écoute la mise en demeure que Metallica. moi, dans ma tête, là, à partir de maintenant, à toutes les fois, je vais dire Metallica, c'est Lars, OK, qu'on parle.
Oui, oui, oui.
Parce que Kirk Hammett s'en branlait, là.
Okay? Ben oui. Lui, j'ai joué de films d'horreur, puis...
Ah oui, puis ben, j'ai même entendu James Hetfield dire à Joe Rogan, c'était le combat de Lars. Là.
Nous autres,
on était avec lui, là, mais tu sais, c'était son bébé à lui. Là. Fait que là, il a demandé des dommages pour 10 millions de dollars et 100 000 dollars par chanson téléchargée illégalement.
OK, ça se compte en dizaines de milliards. Là.
Ben là, écoute, là, moi, je pense qu'il voulait...
Non, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait le crisser dans la rue, là, il voulait le détruire, c'est ça qu'il voulait.
Ben oui, il voulait faire peur aux deux kids. Là,
ah ouais, puis les mettre dans la rue, ben, fermer leur business, puis les crisser dans la rue. Mais en même temps, à cette époque-là, puis pour quelqu'un de son âge, la seule perception logique qu'il pouvait avoir, c'est « je me fais voler mon œuvre. » Puis il y avait Lars a raison, malgré que... Il y a pas eu raison de faire le combat parce que c'est un combat qui était vain, mais ça, il y a juste l'histoire qui pouvait nous l'apprendre, puis c'était pas encore déroulé à ce moment-là. C'est grâce à lui qu'on sait que c'est un combat vain puis qu'on peut pas vaincre Internet. Mais il s'est quand même, lui, il a quand même fait ça, puis tu sais, comme artiste qui se faisait voler, il était dans son droit, puis il avait raison. C'est juste un combat stupide, mais il pouvait pas le savoir à ce moment-là. Déjà là, Internet, lui, il devait avoir déjà 40 ans à ce moment-là, puis Internet vient de sortir. Aujourd'hui, il y a quoi? Il est pas loin de 60 ans, là. Regardez ce que le monde de 60 ans poste, là.
Non.
Ils comprennent pas plus aujourd'hui Internet, là.
Fait que, non, non.
Ça excuse un peu son comportement. Lui, s'est fait voler sa musique, puis il s'est dit, je vais faire quelque chose, puis en même temps, c'est un combat, tu sais, qu'il pouvait faire au nom de tous ceux qui vivent l'industrie de la musique.
Oui, puis je pense pas que il y avait des motivations mercantiles. Là. Lars, même en 2000, il n'a pas besoin d'argent.
Mais non.
C'était pour la noblesse de la cause. Là.
C'est celui qui fait ça avec des 100 piastres, s'en fout.
En mars 2001, une cour fédérale qui a donné raison, évidemment, à Metallica en mettant en force une injonction qui obligeait. Ça a été la même chose d'ailleurs pour A&M Records. A&M Records, c'était un regroupement collectif, en fait, avec plusieurs maisons de disques. Là. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est pas compliqué, c'est ce qu'ils ont demandé, ce à quoi ils ont obligé Napster, c'était de retirer tout contenu disponible pour téléchargement dans la mesure où l'artiste ne voulait pas que ce soit partagé. Okay? Okay. Ça a été... Après ça...
Mais ben là, est-ce que ça leur prenait un consentement pour partager? Oui. Ou bien s'il fallait absolument que l'artiste se manifeste, je veux pas enlever ça.
Ça prenait pas un consentement pour partager.
Tant que tu chialais pas, il pouvait continuer.
Non, mais laisse-moi aller, là, regarde. S'il n'y avait pas de consentement nécessaire pour partager, c'était tout partagé de facto. L'artiste devait intimer Napster de ne plus partager.
Ouais, c'est ça. Pas c'est ça que je voulais savoir. C'est-tu l'artiste qu'il fallait qu'il chiale ou bien c'était... Bon.
Oui, c'est ça. Fait qu'il y a ça. L'autre, parallèlement à ça, c'est que dans la foulée de tout ça, il y avait déjà des entreprises qui avaient signifié leurs intentions, leur intérêt d'acheter Napster. Fait que c'est sûr, parce qu'écoute, il faut comprendre que derrière ça, il n'y avait pas juste la musique, il y avait une technologie qui n'existait pas. Ce qui permettait
ça aurait pu en faire un iTunes avant le temps puis vendre de la musique comme ça.
Exactement. Fait que là, ben, ce qui est arrivé, c'est que il y a une compagnie qui s'appelait Bertelsmann AG. En fait, je pense que c'était une maison de disques qui avait déjà fait une offre pour acheter Napster. Puis là, oubliez pas, là, on est plus ou moins 2 ans après la fondation du truc, là, pour 94 millions. Sauf que dans la foulée de tout ce qui s'est passé avec les mises en demeure que Napster avait reçues, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un juge qui a mis un frein à cette transaction-là parce que le CEO de Napster était un ancien employé de la compagnie qui voulait acheter Napster.
OK.
Tu vois le genre, là?
Oh, ouais.
Fait que là, ben, ce que ça a fait, c'est pas compliqué, c'est que pas longtemps après, ben, ce qui a été convenu, là, c'est que Napster s'est mis sous la protection de la loi de la faillite aux États-Unis. Mais ça a été racheté après. Ça a été racheté par une compagnie qui s'appelait Roxio. En tout cas, ça a changé de main à plusieurs reprises, tant et si bien que Napster, en fait, ou ce qui demeure de Napster, parce que tu sais, quand on dit qu'ils ont liquidé leurs effectifs, là, si on veut.
Ben, la plateforme existe encore, là.
Oui, la plateforme existe encore. Elle fonctionne exactement sous le même modèle que iTunes à toute fin pratique ou Spotify ou peu importe. C'est une compagnie qui s'appelle Rhapsody International qui est propriétaire de ça. Et si je ne m'abuse, je pense que Rhapsody International, c'est une compagnie qui est associée à quelque chose dans le genre de Circuit City ou quelque chose de même, là, un autre conglomérat d'entreprises américaines là, qui regroupe un paquet de babelles puis un paquet d'affaires. Fait que, autrement dit, aujourd'hui, au final de tout ça, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ben, Sean Parker, qui était le cofondateur avec Sean Fanning, parlons-en un petit peu, ça a été le premier président de Facebook. Ça a été le gars qui a fait passer Facebook, au dire de Mark Zuckerberg lui-même, fait passer Facebook d'une compagnie, d'un petit projet universitaire à compagnie réelle. Sean Parker, puis Sean Fanning aussi, ce sont deux espèces de génies de l'informatique et des affaires et de comment faire lever du capital pour monter le projet et tout ça. Et regarde, aujourd'hui, Sean Fanning vaut 124 millions, puis Sean Parker 2,4 milliards. Fait que, tu sais,
ils sont aussi riches que Lars Ulrich.
Ben c'est ça. S'en sont pas trop mal sortis. Par contre, il y a des affaires que je veux dire par rapport à ça, parce que là, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire ouais, gars, les jeunes, ils ont volé, ben c'est ça, puis c'est tout, puis tout le kit. Par contre, il y a des artistes qui ont vu une opportunité derrière ça.
De se faire connaître.
Exactement. En 2000, Limp Bizkit avait signé un deal de genre 2 millions de dollars avec Napster pour utiliser la plateforme pour faire connaître sa musique. Il y a eu des études depuis, que ce soit maintenant avec les torrents ou à l'époque avec Napster puis le file sharing, qui démontrent que les gens qui font beaucoup de file sharing dépensent plus pour la musique que ceux qui en font pas.
Oui, parce que c'est des passionnés de musique, ils vont aller voir le show, puis ils vont aller voir des shows qu'ils seraient pas allés voir s'ils avaient pas découvert via les téléchargements illégaux en particulier, ou le piratage.
Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on peut dire que, tu sais, au départ, ils ont créé une technologie de laquelle en ont découlé d'autres, parce qu'après ça, tu as eu tout ce qu'on a connu. Tu as parlé de LimeWire, il y a eu...
Kazaa.
Gnutella, Kazaa. Il y en a eu une trollée là, de plateformes après ça. Puis tu sais, regarde, là, 20 ans, 21 ans plus tard, on fait encore du file sharing, puis on download encore des torrents, puis regarde, là, ça, c'est inarrêtable. Il n'y a rien à faire.
Tu sais, dans le fond, c'est que c'est plate pour les... les multi... c'est aussi, pour même YouTube, je mettrais ça là-dedans, là, ça fait perdre de l'argent peut-être à des artistes genre comme Metallica, Mariah Carey, sure. Tu sais, du monde qui sont déjà connus, tu sais, puis qui perdent des ventes. Mais ça fait mal à des millionnaires, mais pour des bands modestes, underground, comme mes bands à moi.
Bienvenue au monde.
C'est ça, la Dubuc, c'est semi, c'est pas tout à fait au monde encore, ce band-là, parce que notre premier album n'est pas encore sorti. Là, il est fini d'enregistrer, mais ça va sortir en courant du printemps, on essaye. Puis, mais pour Dr. V, mon autre band, nos albums sont disponibles sur YouTube, là, puis ils n'ont pas été piratés, on s'est auto-piratés. Pourquoi? Parce qu'on perd pas une scène. Ce qu'on veut, c'est se faire connaître. On n'est pas connu pantoute. Fait qu'on n'a pas de. On sera pas pénalisé d'aucune façon. S'ils vont dans leur magasin de disques, s'il y en a un, parce que ça existe presque plus, ils vont pas dire hey, c'est CD de Dr. V, je me demande c'est quoi, je vais l'acheter, voir si je vais aimer ça. C'est ça, c'est les années 80. Là. Aujourd'hui, c'est tu vas voir sur Internet si t'aimes ça. Puis si t'aimes ça, tu vas voir le show. Puis si t'as aimé le show, t'achètes le CD pour les encourager. Ou un chandail, ou une casquette, des stickers, des macarons, des bobettes, des capotes. Il y a toutes sortes d'affaires que tu peux mercantiliser ta musique. Mais ce qui mène à l'achat du CD, c'est le show. Puis c'est plus l'inverse. Le monde va pas voir le show parce qu'ils ont aimé l'album. Ils te découvrent via du contenu, des chansons, des vidéos, des extraits de show, des gugus que tu mets sur ton Facebook, faire la promotion de ton band. Puis là, ton but, c'est de les intéresser. Puis YouTube, Colin, eux autres, c'est pour nous, YouTube, c'est juste de la publicité gratuite. Facebook, c'est de la publicité gratuite. On pourrait jamais se payer de la publicité que de la porter comme Facebook puis YouTube. Puis là, ben Colin, on des fois, Dr. V va apparaître quelqu'un qui écoute, genre, je sais pas, du Grimmskunk, du Barf, de l'underground rock québécois, ou même des fois du québécois, tu sais, plus commercial. Ben des fois, dans les suggestions, Colin, il va avoir une toune de Dr. V. Un clip, ils vont cliquer dessus, puis on va se faire connaître grâce à ça. Nous autres, on perd rien. Le piratage, c'est une chose qui est merveilleuse pour nous autres, tellement le fun qu'on le fait nous-mêmes. Là.
Regarde, l'industrie de la musique aujourd'hui, c'est clair que, bon, un, il y a la. excusez, il y a la renaissance du vinyle qui règle. Tu sais, écoute, là, c'est l'an dernier, je pense que c'était la première fois depuis je ne sais plus combien d'années qu'il s'était vendu.
Le vinyle vendait plus que des CD.
C'est parce que
c'est un collectible.
Tu viens d'aller en rechercher un peu, un. Ça stream bien mal, un vinyle, là. Un.
Ah, mais le monde ne l'écoute pas. Il collectionne.
Non, mais puis deux, c'est les tournées, c'est la merch, là. Tu sais, c'est les t-shirts, c'est la vente de billets, c'est les apparitions, c'est les cachets de participation des émissions. Tu sais, c'est avec ça qu'ils font fortune maintenant. Ben, c'est plus que la vente de CD.
Mais non, c'est ça. Ben même les vinyles, je mets ça avec les casquettes, avec les chandails. C'est de la merch, un vinyle, parce que c'est un collectible. Presque personne va l'écouter, le vinyle. Moi, j'ai un vinyle de Grimmskunk, j'ai jamais sorti, là. Je garde mint condition.
Moi, j'ai des chums qui trippent sur le vinyle, puis que quand ils écoutent, ils disent que c'est bien meilleur. Mais bon, regarde, ça, c'est un autre débat. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais je t'amène ailleurs, Frank, parce que de faire mes recherches pour ça m'a amené vers autre chose qui est tout à fait pertinent, puis qui est un side story bien intéressant. C'est qu'en 1984, la Cour suprême américaine a rendu un jugement. En fait, c'était... C'est Universal City Studios qui produisait un paquet d'émissions de télé aussi, pas juste des films, qui a intenté une poursuite contre Sony parce que, pense-y, là, quand les vidéos ils ont commencé, là, quand on enregistrait sur une cassette, c'était en train de t'approprier du contenu.
C'est pour ça que t'as le FBI warning.
Et ouais. Non, mais ouais, il y a ça, mais la TV. Je te parle pas d'une cassette vidéo.
Okay, quand ça jouait à TV, tu l'enregistrais. Ah ben oui, absolument, parce que les autres, ils payent cher pour avoir le droit de diffuser ce film-là. Puis toi, ben, tu l'enregistres.
Toi, tu t'en vas enregistrer ça. Fait que,
tu penses à tes chums.
Il y a eu, le jugement a été rendu, puis ça a créé, ils appellent ça un safe haven, tu sais, une espèce de paradis de ça a créé une zone de sécurité pour n'importe qui était propriétaire d'un VCR. C'est-à-dire que, oui, évidemment, tu n'avais pas le droit d'en faire la vente. Mais il a été déterminé que lorsque tu enregistrais quelque chose, ben tu n'étais pas en violation de droit d'auteur. En fait, le terme utilisé, qui est un terme légal qu'on entend souvent, c'est le fair use.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Tu achètes une vidéo, tu payes pour le câble, puis tu veux mettre ton timer de 7 à 8 le soir parce que tu t'en vas jouer au bowling, puis tu veux écouter whatever, Hawaii 5-0, Ben, parce que tu l'écoutes à un autre moment qui a été diffusé, t'es pas en train de détruire les droits d'auteur, les droits de production. Ouais, mais ils ont quand même essayé, tu sais.
Oh oui, ben
mais
oui. La limite, c'est que tu peux pas vendre des copies de ce que tu as enregistré, puis tu peux pas le diffuser devant du public pour de l'argent. Puis le fair use, c'est même plus large que ça. Admettons que tu sais, si on faisait une chronique, puis on mettait, tu vas voir ça dans des vidéos YouTube ou ben même dans des chroniques à la TV, tu sais, des émissions, mettons, à but lucratif, là, faites par des vraies compagnies, tu sais, qui font ça. Ils vont mettre des extraits de chansons. Ils payent pas des droits pour tout ça. C'est ça, du fair use. Sauf que
Moi, regarde, là, parce que je vais faire dériver ça rapidement sur un autre petit débat. C'est que depuis quelque temps, il y a des podcasteurs qui mentionnent le fait que ça leur serait arrivé de voir certains, sur certaines plateformes, Spotify, pour pas la nommer, l'utilisation de musique ou de trucs. Qui serait régi par des copyrights. Ils retirent carrément les podcasts en question de leur plateforme parce que tu es en train, sans avoir le droit de le faire, tu utilises. Moi, si ça, c'est vrai, nous autres, regarde.
Oui, ils perdent leur monetizing, les foules.
C'est pas arrivé, là. C'est peut-être du timing, c'est peut-être parce que, bon, peu importe, là, peut-être des artistes que c'est plus touché, whatever. Mais si c'est vrai, c'est cave, là. Mm-hmm. Parce que moi, si j'écoute une toune qui est populaire sur Spotify dans le crachoir aujourd'hui, ben les chances que je m'abonne plus à Spotify si je ne le suis pas déjà ou que j'aille la réécouter sur Spotify, on s'entend-tu qu'ils sont plus grandes?
Oh, ouais,
si
tu as acheté l'album sur iTunes ou?
Et si je connaissais pas cette toune-là, cette bande-là, cet album-là, on s'entend-tu qu'il y a plus de chances? On les nomme tout le temps. On dit pas que c'est nous autres qui a composé ça. Tu sais, c'est dans l'industrie d'aujourd'hui, entendons-nous, je te c'est parle pas quand chose. Il y avait juste des 45 tours, là. Ça, c'est pas pareil. Il fallait peut-être l'acheter, là. Mais la technologie permettait pas de faire ça électroniquement. Ben, à cette époque-là, j'aurais été d'accord qu'un band soit maudit, qu'un dude, il y a une presse dans son garage, puis qu'il fasse des CD, des Beach Boys, puis qu'il les vende en boîte de son char. Je suis 100 000 à l'heure d'accord.
Ben oui.
Mais là, la game, elle a changé. Puis, la morale de cette histoire, c'est que tout le monde qui a essayé de mener un combat contre, quote unquote, l'Internet va perdre. C'est trop gros pour être géré. Puis c'est encore pire même depuis l'avènement des VPN. Pour 12$ par année, tu t'achètes un VPN, puis ton adresse IP, elle vient de l'Azerbaïdjan. Tu sais, il n'y en a pas de problème, là. Tu sais, il n'y a pas de danger que la GRC débarque chez nous pour dire hey, t'as downloadé de la lutte, toi, hier. Ben non, voyons, là. Tu sais, je l'avance pas. Je l'écoute.
Ou les SWAT qui pètent les fenêtres, tout ça, pendant ton combat.
Ouais, les câbles, si, puis en rappel, sur le bord de la bâtisse, puis tout, ça n'arrivera pas. Il va sûrement y arriver, tu sais, parce qu'il y a certains pays.
Il y a souvent des courriels de menaces, là.
Oh non, mais attends, il y a des pays en Asie où est-ce que l'Internet, tu sais, mais tu vis dans des monarchies à la limite quand ça arrive. Tu vis
non, mais ils n'ont pas le vrai Internet, eux autres. C'est le gouvernement qui a Internet puis qui rend disponible quelques sites.
Ouais, non, c'est ça.
Comme en Corée du Nord, ils n'ont pas Internet.
C'est pas dans un contexte démocratique, là. Non, c'est ça, les possibilités que ça arrive aux États-Unis.
Dans un pays en temps de paix, là, on n'a pas vraiment à s'inquiéter de ça. Quoi qu'il y a du monde qui reçoit des lettres de menace, ceux qui, dans d'autres bains des torrents, il y en a qui me comptent ça. J'ai reçu une lettre. Je pense que c'est la compagnie Taub qui.
Ouais, moi, une fois dans ma vie, j'ai reçu un email. Nous avons constaté que blablabla. Je suis allé sur Internet, j'ai trouvé une compagnie, ça me coûte 12$ par année. Puis là, leur email, ils vont l'envoyer à quelqu'un en Alberta. Mais non, mais je veux dire, c'est
moi, je l'ai pas su, mais
L'Internet, c'est quelque chose d'autosuffisant. Tu sais, c'est une société en soi-même.
Oui, puis il n'y a pas de frontières. Là. Fait qu'essayez pas, là.
Ben non, ben c'est ça. Fait qu'au final, ben qu'est-ce qu'on peut dire de toute l'aventure Napster, Metallica, whatever, name it? Ben écoute, c'est clair que ce serait de se mettre la tête dans le sable que de ne pas penser que c'est en quelque sorte, dans une certaine mesure, à l'origine d'un Spotify ou de toutes les autres plateformes, Google Play Music ou Apple Music. C'est clair là que ce que ça a eu comme résultat, c'est qu'il y a eu une espèce de reboot de Napster payant. C'est that's all. Parce que, écoute, moi, quand j'ai commencé à acheter de la musique sur Apple Music, ce que j'ai réalisé, c'est que j'en achetais des CD puis j'avais acheté des cassettes avant ça. Mais s'il y avait 12 tunes dessus, je n'aimais deux. Ah. Je payais 2$ puis j'avais 2 tunes que je voulais, puis merci, bonsoir, puis ça venait de s'éteindre. Là,
les albums, c'est...
m'a dit pire que ça, Frank, OK? Là, ça va être geek un peu, là, ce que je vais raconter là, mais Spotify, c'est pas le cas. c'est pas pareil, c'est pas le même concept. Mais Apple Music, là, si c'était si grave que ça, parce qu'avant ça, Apple Music, il n'y avait pas de service d'abonnement. T'sais. Tu payes, tu t'abonnes, tu as toute la musique sur la tête, tu trouves, tu payes supplé. Ça n'existait pas avant. Quand tu avais Apple Music, au début, tu achetais de la musique, tu la mettais dedans. S'il était si s'il était si pro-protection des droits d'auteur que ça, ben enlever la possibilité qu'on utilise à Apple, à l'époque iTunes, pour écouter des tunes qu'on a streamées, Chris, de gang de tata. Je pouvais pogner un répertoire sur mon disque dur, le draguer dans Apple, puis merci, bonsoir, c'était mon player, puis j'avais ma liste blues, ma liste rock, ma liste classic rock. C'est la même affaire. Si ça avait été juste, tu devrais utiliser iTunes juste pour écouter la musique que tu achètes, espèce de violeur de droits d'auteur, ben tu peux pas draguer tous tes répertoires de musique dedans, bataille, là.
Mais là, tu leur donnes des idées, là, puis eux autres, ils aiment ça contrôler notre vie. Mais moi, quand on parle de, tu sais, la musique a changé pour côté revenu, mais côté création aussi, parce que avant, les albums, c'était comme, il y avait une thématique pour l'album, des fois un concept pour tout l'album, je pense à The Wall, Tommy the Who, aujourd'hui, les albums, c'est plus tellement pertinent en musique. Tu sors des tunes, tu sors du contenu, tu sors des vidéos, puis ton album, il n'est pas obligé d'avoir un son consistant d'une chanson à l'autre, un style consistant d'une chanson à l'autre, parce que justement, t'es plus prisonnier d'une galette en plastique. Tu sors tes tunes une après l'autre, à la pièce, puis à place d'être une œuvre de 45 minutes, des fois pénible pour 8 minutes de fun, puis que tu mets des fillers ou ben tu sais, parce que c'est ça qui arrivait des fois, il y a des artistes qui avaient pas assez de bonnes tunes pour faire tellement un album, ils mettaient ce qu'on appelait des fillers, des B-sides, tu sais, des tunes moins bonnes. D'ailleurs, Metallica, Ride the Lightning, était pas supposé avoir, je pense, c'est 8 tunes, il y avait juste 7 tunes de prévu, puis la compagnie de disques a obligé Metallica à faire une 8e tune. Hey, il manque une tune, faites une tune. Ils ont fait Escape dans cet esprit-là, là, botché en studio, puis pis c'est qu'elle est bonne, la toune. Puis il y a une version live maintenant, ils ne l'avaient jamais joué live, ils l'ont joué il y a quelques années, ça se trouve sur YouTube, gratuitement. Mais, wink wink. Mais, c'est ça, on ne se sent plus obligé de remplir la cassette jusqu'au bout du tape, puis de... Tu sais, ça me faisait rire, parce que j'ai déjà acheté des CD de Metallica qui avaient 3 tunes dessus. C'était des singles en CD. Puis là, il y avait une version démo, puis ça avait son charme, parce que c'est des affaires inédites. J'avais acheté ça, puis mon père, il dit, « Combien t'as payé ça? Ben, »« 13$. » Il dit, « Combien y a de tunes? Ben, »« 4. » Tu t'es fait fourrer, parce que pour lui, c'était une question de quantité, tu sais.
Non.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus de quantité, puis il n'y a plus de timing. C'est t'achètes les tunes que t'aimes, puis ça finit là. Puis d'ailleurs, ça fait que la musique est meilleure globalement, parce que les tunes pas bonnes, ça rentre juste pas à vente.
Je veux te dire, tu sais, regarde là, dans la foulée de la création de la station Radio Déo, OK? Une station web country qui est avec nous autres. OK? J'ai appris comment ça marche à Star, l'industrie de la musique, parce que là, c'est tout le monde qui fait la même affaire. OK? Il annonce qu'il va sortir un album, mettons, le 15 mars. OK? Bien, à partir de début février, là, chaque tune de l'album sort sur YouTube. OK? Fait que là, ben, il roule pendant, je sais pas, moi, 2 semaines avec une toune. Les hits, là, tu sais, les singles qui savent qu'ils vont scorer vite. Puis après ça, quand l'album sort, ben là, vu que t'as trippé ces 2-3 tounes, t'as ramassé sur YouTube, ben là, tu vas peut-être aller t'acheter l'album, le vinyle ou whatever. Mais l'industrie de la musique s'est adaptée à cette nouvelle réalité-là. Ça veut dire que tout combat contre ça, c'est terminé, là. Ils ont catché la game, là. T'sais, ils savent que c'est payant de le faire de même.
Il y a jamais eu...
Il s'en vient en char à Montréal, moi, être là.
Il n'y a jamais eu de combat. Il n'y a jamais eu de combat. Il y a eu des mésadaptés et du monde qui n'ont pas compris assez vite.
Mésadaptés.
Il y en a encore. Moi, j'ai encore l'image. Ça fait plusieurs années. Vous allez me dire, oui, ça fait plusieurs années, mais ça faisait longtemps que les téléchargements, c'était rendu commun. Là. Mais Wilfred qui broyait en pleine TV en conférence de presse. Puis, je vends plus d'albums parce que tout le monde télécharge. Non, tu vends plus d'albums parce que t'es plus la saveur du mois. Puis personne t'aime. Puis ta musique, c'est de la marde. C'est pour ça qu'il en vendait plus d'albums, mais probablement que dans son entourage, puis les producteurs, ils ont fait croire que c'est parce que les gens, t'es pirate ta musique, Wilfred. C'est pour ça que t'en vends plus.
Non, c'est ça. Puis ça, là, appelons ça le piratage gate au Québec, là, quand ça a commencé, puis les artistes allaient broyer à la disque, puis tout, là. ça a tellement été mal géré, là. Ils ont tellement tout de suite pogné le micro puis broyé, tu sais, au lieu de prendre deux pas de recul, là, regarde comment ça va marcher, puis capitalise là-dessus à la place, puis crée-toi une plateforme numérique, puis tu sais,
hey, un site web. Étrangement, ça, ceux qui avaient l'air, ceux qui étaient supposément le plus touchés par le piratage, c'était des washout qui étaient peu, qui étaient juste plus dans le coup, puis que le monde n'écoutait plus, point. Fait que, tu sais, c'est, ils sont dit, ah, comment ça que je poigne plus? Ah, c'est le piratage. Comme aux, c'est à cause du piratage. Ah, pleure pas, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, Marie-Chantal. C'est le piratage. Je t'étais encore bonne, Marie-Chantal. C'est le piratage.
Non, mais regarde, ils ont fait des Ricardo d'eux-mêmes. C'est qu'ils sont mis à broyer, puis ils ont dit au gouvernement, faut que tu m'aides. Parce que là, il m'a fait tout pirater.
Ah, mais ça, c'est québécois. Ça, c'est québécois. C'est notre côté socialiste. Ouais. Gouvernement, ben oui, tiens-moi la main.
On se lamente après ça qu'on ait un gouvernement, mais toutes les fois que ça va mal dans quelque chose, c'est à les autres
qu'on va broyer dans sa jupe. Ben oui, Colin. C'est vrai qu'on s'émancipe, mais on a manqué notre chance.
Ben non, ben c'est ça. Fait qu'écoute, Frank, bravo, Lars, tu sais, t'auras réussi ton combat. Ton combat, mais pas le combat. Il était perdu quand tu l'as commencé. Sauf que, bon, ben écoute, il reste que...
Ça a pris plein de choses.
Ben ouais, puis un, puis deux, ben ça on, au-delà du, tu sais, au final là, de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est que la musique est plus disponible qu'elle l'a jamais été. Puis ça, ben, c'en est une victoire.
Elle est meilleure qu'elle n'a jamais été parce que vu qu'elle est plus disponible, il y a plus de musique, la compétition voilà. Est plus serrée, puis il y a plus de limites. Puis ça, ça les a enragés au CRTC là. Mais il n'y a plus de contraintes de « tu vas entendre juste du francophone ». On écoute ce qu'on veut. Puis moi, j'écoute des bands de partout sur la planète. J'écoute un band de métal japonais ces temps-ci. Je trouve ça malade. J'aurais jamais connu ça avant. Il n'y a pas ça au disquaire du coin. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de disquaire au coin. Puis même s'il y en, avait un, il n'y en aurait pas. Il ne connaîtrait pas ça. Puis je dirais, t'as-tu ça du Devil Oof? Non, mais ben j'ai le dernier Claude Dubois ici, Fadeli Vedela.
Laurence Albert, on l'a, lui, par exemple. Hey, je te raconte une histoire vite faite. Quand j'étais plus jeune, il y avait, ça m'en fout de le nommer, il y en a peut-être qui vont le reconnaître, à Blainville, il y avait un tout petit commerce, un vendeur de musique, d'albums, de cassettes, tout ça, qui s'appelait les disques Nick. N-I-C-K. Écoute, on allait tout acheter nos affaires là. Plusieurs années plus tard, moi, j'allais plus vraiment là. Je pense que l'Internet, c'était commencé aussi. Là. Je devais pirater tout le monde. Là. Puis, j'ai appris, parce que ça a passé dans les journaux locaux, que Disque Nick, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il dobait des tapes. Il dobait les tapes, il dobait les covers, tu sais, les jaquettes de tape, puis il vendait ça. Puis, il s'est fait pogner. Ouais, tu sais, fait que, allez pas penser que le piratage n'existait pas avant ça non plus. Non,
il existait.
Frank, comment pourrions-nous ne pas clore ce segment avec la toune qui a tout causé ce branle-bas de combat, qui a fait que Lars se réveillait en sueur parce qu'il voulait pas se faire pirater sa musique.
Le blues du businessman.
Ouais, c'est un peu ça, mais je parle évidemment de I Disappear, qui faisait partie de la trame sonore de Mission Impossible 2. Yeah.
Crachoir, épisode 99. On est rendu à la poutine et au mash-up, à moins que vous auriez quelque chose à ajouter, M. Godet.
Ben, écoute, au moment où vous allez écouter ce podcast, vous allez être au courant de ce que je vais vous apprendre, mais c'est pas grave parce que là, il est présentement, on va se le dire, là, il est 22h23, mercredi, le 11. Jerry Vard vient de m'envoyer quelque chose qui va invariablement signifier que la frénésie du coronavirus va augmenter. Tom Hanks et sa femme viennent d'annoncer qu'ils sont infectés. Ils sont en vacances en Australie. Ou en tout cas, il a juste mentionné qu'il est en Australie. Puis écoute, c'est pas sur coronavirus.org, là, c'est sur Radio-Canada. Là. C'est un peu
partout, oh, pourquoi là, pas Donald fait, Trump?
Il a fait,
pourquoi Tom Hanks? C'est le meilleur gars au monde.
Il a fait un tweet qui explique que lui et son épouse sont en Australie, que les deux avaient des symptômes de la grippe, qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient des douleurs et tout ça, et ils ont testé positif au virus et que là, ils vont tout simplement suivre le protocole. Fait que j'imagine qu'écoute, là, Tom Hanks est tellement cool sur les médias sociaux et dans la vie en général que c'était vraiment pas pour se faire du cred qu'il voulait dire ça. C'était surtout probablement pour pas que ça sorte ailleurs et que ça soit lui qui l'ait annoncé.
Ça sort tout croche puis Tom Hanks est à l'agonie. Là. Mais rassurez-vous, fans de Tom Hanks, parce que contrairement aux patients chinois, Tom Hanks va avoir accès à ce que l'on appelle la médecine des millionnaires qui devrait le faire guérir d'ici les prochaines heures.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, ça va définitivement, ça calmera pas les ardeurs des
Ben là, ça vient de donner du jus en maudit aux médias, là, qui vont faire tout un savon là, de ça. Là. Ils vont triper là-dessus. Là. On va en avoir 48 heures de Tom Hanks. Là.
Et je peux déjà
lui,
te dire...
Il va être déjà guéri, puis il va déjà être guéri, puis il va être en train de jeter ses vieux Kleenex, puis le monde va encore paniquer sur son cas, là.
Le spin qu'ils vont donner à ça, c'est clair. Puis ben en fait, j'aurais parlé au passé parce qu'au moment où nous écoutez, c'est déjà public là. Mais le spin qu'ils vont avoir donné à ça, ça va être ça, personne n'est à l'abri. Ça c'est sûr.
Même pas Forrest Gump, peu importe c'est quelle vitesse qu'il court.
Même pas le gars qui cherchait le soldat Ryan.
Colin, hein? Même pas c'est celui qui s'est transformé en adulte et a fait l'amour avec une femme adulte alors qu'il était enfant. Hey, ce film-là, il passerait moins bien aujourd'hui, hein, Big?
Ah, c'était bon, Big. Mais
c'était très bon. Mais aujourd'hui, ça fait cringer.
On est rendu à Poutine, effectivement. Écoute, on souhaite un prompt rétablissement à Tom Hanks et sa conjointe parce que c'est quelqu'un de très sympathique dont on a déjà parlé des tweets dans le crachoir. Ben écoute, là, je vais faire une shameless plug. Le vendredi soir à 21h30, si vous ne savez pas quoi faire, ben je vous invite à écouter live sur radioh2o.ca, pardon. Ceci n'est pas un podcast. C'est quoi? Ben c'est pas un podcast. Donc, si t'es pas là vendredi soir à 9h30, ben oublie ça. Tu le seras jamais. Je suis en compagnie de Toto Lavigne. On dit tout ce qui nous passe par la tête. On écoute la bonne musique. Et pour l'édition de ce vendredi, ça va être quoi? Ça va être thématique rock and roll des années 50 et rétro-québécois. Je sais une ou deux choses sur ces époques-là. Mettons, on a déjà aligné des entrevues avec des personnalités de l'époque. Donc, ça va être super intéressant. Fait que joignez-vous à nous autres, 21h30 sur radioh2o.ca. Vous pouvez également visiter la page Facebook. Ceci n'est pas un podcast. Si je vous ai pas déjà envoyé une invitation, parce que j'en ai envoyé une à tout le monde que je connais.
Non, mais quand même, vous allez être live.
Oui, oh yeah, live. Là. Puis c'est sans filet. Écoute, des fois, je fais des erreurs de mise en onde. On rit, c'est drôle. On a du fun au bout. Mais avant ça, ben pour ceux qui sont présentement en train de nous écouter sur radioh2o.ca, ben vous étiez là donc à 20h le jeudi soir. Si vous ne l'êtes pas et que vous nous écoutez en podcast, merci beaucoup. Semaine prochaine, ben si vous voulez avoir en primeur et en exclusivité le show numéro 100 d'ailleurs, Frank, 100 épisodes qui s'en viennent, ben vous pourrez le faire sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Play, Spotify, tout bon podcatcher, Android. On vous rappelle aussi, bien sûr, que vous pouvez visiter le site web du crachoir, donc crachoir.com, ainsi que la plateforme qui permet à Frank de manger autre chose que des denrées non périssables qui ne seront pas infectées du coronavirus, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à visiter patreon.com/crachoir et vous aurez l'option, il y a différents niveaux. Je salue d'ailleurs un nouveau patron qui est un ami de podcast.com et d'à peu près tout ce qu'on fait, super bon gars qui nous écoute sur la route, Frank Boulay. Merci à toi, mon cher Frank. Je sais que tu es un abonné assidu du crachoir et de plusieurs autres choses qu'on fait.
Tout ceci nous mène au mash-up, qui sera pas un mash-up cette semaine, qui va être une parodie, parce que pour le sujet de Martin, j'avais une bonne idée de toune. Il y en avait une aussi. Puis bon, c'est sa chronique. Puis c'était un bon choix. Fait que on s'est entendu sur I Disappear de Metallica. Pis, mais moi, mon idée, c'était de mettre une parodie que je croyais l'œuvre de Weird Al Yankovic. Puis d'ailleurs, ce qui avait motivé le refus de Martin, parce qu'il déteste Weird Al Yankovic. Absolument. Comment un être humain normal et sain peut détester Weird Al Yankovic, je sais pas. Mais Martin, c'est donner peut-être un petit indice, il a peur du papier mouillé. C'est quelqu'un de spécial.
Qui compose une toune un moment donné.
Ah, elle a composé plein. Ben, je suis sûr qu'il y en a des originales.
Ça te donne une idée. Fait que, tu sais, tout le cred t'es fait, c'est le stock des autres.
C'est un humoriste. C'est pas un musicien. C'est un musicien, mais c'est un humoriste.
C'est pique, Napster.
Ben non, arrête. C'est un humoriste. C'est fucking drôle. Rocky Belles Oreilles a fait des parodies de toute leur vie. Ils ont jamais composé une Christy de toune non plus. Là, le feu sauvage. Là, ils ont pas écrit. Ils savent pas jouer de la guitare. Là. C'est Patrick Bourgeois. Puis c'est pas grave. C'est des humoristes.
Frank, il me fait pas rire, c'est tout. Là.
Oh, c'est correct. Ben oui, c'est ça. T'es juste bizarre. Mais en tout cas, de toute façon, c'est pas...
Ça me fait pas rire. South Park, ça me fait pas rire. American Dad, ça me fait pas rire. Puis Weird Al Yankovic, ça me fait pas rire.
Puis un coucher de soleil, tu trouves ça laid.
Hey, j'aime la crème glacée à vanille, j'aime ça.
Ah, Colin, on a des goûts communs.
Ouais, si quelqu'un, ils disent tout le temps, si tu veux savoir quelqu'un difficile, m'en dit s'il aime pas la crème glacée à vanille. Fait que là, on m'a gagé que toi, t'es le gars qui aime pas ça.
J'adore ça. Moi, j'aime tout dans la vie. Je suis quelqu'un de foncièrement positif et jovial.
Bon, mais Weird Al, j'aime pas ça.
Mais de toute façon, la toune n'est pas faite par Weird Al, même si elle est souvent identifiée comme étant une parodie de Weird Al. En l'entendant tantôt, je l'écoutais, je... Mais c'est pas la voix à Weird Al, pantoute. Puis c'est pas son genre de joke. Puis. Mais non, j'ai fait des recherches, puis malgré tout ce que YouTube. Parce que YouTube, vous savez, que c'est une source d'information extrêmement polluée. Puis ceux qui s'y abreuvent se retrouvent plus souvent qu'autrement intoxiqués. Je l'étais à propos de cette chanson-là. C'est fait par un certain Johnny Crass. C'est une parodie de Enter Sandman de Metallica et ça part du combat contre Napster. Donc c'est rebaptisé Enter Napster par Johnny Cash. Il y a deux titres. Tu sais, c'est tellement tout croche. C'est tout, non, c'est pas du cavien, OK? Il y a tellement qu'il y a d'autres. Il y a un titre alternatif. Il y a Enter Napster, puis l'autre, c'est Internet Sandman. En tout cas, c'est une parodie de Johnny Cash à propos de Metallica, sur une tonne de Metallica, et leur combat sur Napster. Bon, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. C'était vraiment tout croche puis compliqué. Mais de toute façon, je leur dirai pas parce que c'était déjà assez compliqué comme ça. C'était le Crash Noir numéro 80. 99. Écoutez ça, puis riez, puis Martin, bouge tes oreilles. Make a list, little Lars, never seen a star. Put his fans behind bars. Can't you see, MP3 means you're stealing from me. You should have bought a CD. I keep my T1 open. I'm stealing your songs right now. We're in from the internet. Sue our fans. We're off to Napster, Napster land. Go to court, close the site. Napster's down tonight. Now the judge says, all right. Bunch of thieves, bunch of lies. Steal our song through a wire. You know we'll put up a fight. I keep my phone line open. I'm ripping your songs right now. We're in debt from the internet. Sue our fans. The Napster, Napster land. Copyrights to keep. If he gets poor before he wakes, he'll have to sell fries and shakes. Hush, little Ulrich, don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just a fan making bootleg tapes. I hope you choke on your sour grapes. We're in. From the internet. Screw the fans. We're in debt. From the internet. Sue the fans. We're off to Napster, Napster land.
Membre de la famille H2O Web Media.